Bonjour Jocelyne Daquilien.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes historienne et anthropologue du monde arabe et du monde musulman. Et c'est d'un vaste ouvrage de plus de 2000 pages, 3 tomes, dont nous allons parler aujourd'hui, votre Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc, qui vient d'être publié aux éditions Anacarsis, qui est un monument d'histoire et d'érudition qui s'attaque à un espace peu connu et pourtant matière à énormément de fantasmes, l'espace du harem, et cela sur la très longue durée du XIVe siècle au XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les travaux que vous avez menés auparavant vous ont conduit à cet espace du harem dans une acception très particulière, dans le rapport au pouvoir, mais aussi le rapport de genre entre les hommes et les femmes dans le monde arabe ?
Eh bien, je pense que ce travail s'inscrit d'une part dans un intérêt qui est le mien depuis longtemps pour toutes les histoires invisibles, invisibilisées, oubliées, les traces infimes, ténues, et l'histoire du genre, l'histoire du harem relève de cette histoire mise sous le tapis finalement. Et par ailleurs, ça relève d'un intérêt marqué pour moi, pour les questions politiques. Et d'une certaine façon, ce livre, je le prends comme une suite de deux autres livres que j'ai publiés. Le Divan des Rois, d'une part, qui s'intéressait à la question des lieux communs en islam, dans les sociétés islamiques, et spécialement à la question des rapports entre religion et politique, qui s'intéressait à la question d'un rapport séculier aux politiques. Et d'autre part, et on se rapproche de la question du harem, l'Empire des passions, qui est paru en 2005, et qui essayait de décortiquer tous les schémas narratifs relatifs à la passion guidant le politique dans les sociétés islamiques.
Alors, votre livre s'intéresse à une très longue durée, puisque les prémices de votre premier tome, c'est aux alentours du XIIIe siècle. Le XIVe siècle, c'est le véritable début de ce premier tome, jusqu'au XXe siècle. Donc, ce sont au moins 6 siècles de travail autour de cette notion du harem, de la place que peut avoir le harem, mais aussi, dans d'autres termes, le gynécée ou le sérail dans le rapport au pouvoir, pourrait-on dire, au pouvoir des sultans en particulier, et dans une région particulière qui est le Maroc. Est-ce que justement, c'était pour vous une façon, alors que vous êtes anthropologue et historienne, de travailler sur les variations, pourrait-on dire, de cette figure du harem tout au long de ces 6 siècles?
Alors, initialement, je ne pensais pas travailler sur une si longue durée. J'avais prévu de travailler uniquement sur le tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, et sur un règne en particulier. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas comprendre cette question qui est généralement abordée comme une question culturelle, comme une question d'anthropologie, qu'on ne pouvait pas l'aborder sans embrasser des périodes beaucoup plus amples, beaucoup plus larges. Et j'ai souhaité aussi revenir au modèle fondateur, en quelque sorte, à cette sorte de grammaire de motifs par lesquels on décrivait, y compris de manière endogène, ces enjeux du gynécée et du pouvoir. Et c'est pourquoi j'ai commencé l'enquête finalement très tôt dans le Moyen-Âge, pour la finir très tard.
Et c'est donc une variabilité, pourrait-on dire, d'une figure qui pourtant apparaît comme une figure de fixité, cette question du harem. Et cette variabilité vous a intéressé parce qu'elle montre justement l'historicisation d'un tel phénomène.
Tout à fait, tout à fait. D'une part, nous sommes aujourd'hui ancré dans une forme de certitude anthropologique, culturelle, que ces questions relèvent de la culture. Et donc, il s'agissait de les historiciser au contraire et de réintroduire de la chronologie, de réintroduire de la disparité, de la différence, à partir du Maroc, et non pas seulement par une monographie sur le Maroc, donc dans une constante comparaison, autant que mes moyens me le permettent. Et d'autre part, il s'agissait aussi de se déprendre d'un préjugé de fixité, de sédentarité, de fixisme, de statisme, en montrant toute la plasticité, la mobilité, à la fois des modèles et puis des acteurs et actrices eux-mêmes constamment en mouvement.
Parce que effectivement, vous montrez bien que cette figure du harem ou du gynécée ou du sérail est une figure qui ne comporte pas que des femmes. En l'occurrence, il y a tout un tas de dans cette cour autour du sultan, il y a tout un tas de personnages très nombreux. Est-ce que vous pouvez nous les décrire déjà pour pouvoir peut-être casser cette image d'Épinal qui nous vient beaucoup de la peinture du 18e ou du 19e siècle en Europe occidentale?
Voilà, a fortiori pour une société aniconique sans image comme le Maghreb, on a tendance à systématiquement projeter, quand on a besoin d'images, à systématiquement rétro-projeter des images du 19e siècle pour illustrer ces périodes et ces réalités. Alors, les premiers gynécées dont on parle, ces premiers grands ensembles polygynes, ils appartiennent à des monarques, à des sultans. Donc, il y a une définition proprement sultanienne et politique de ces capitalisations de grandes maisons. Ensuite, on glisse plus facilement vers l'idée du harem comme maison particulière, comme n'importe quelle maison. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'en réalité, ce que nous appelons de manière contemporaine harem référait simplement à une maison. Mmh. À une maison, et donc on y rencontrait les hommes de la maison, on y rencontrait les parents des femmes, outre le maître de maison, quantité d'enfants, plus ou moins grands, garçons et filles. On y rencontrait des esclaves masculins y compris, parfois âgés, intendants, gardiens, mais aussi professeurs de musique, par exemple, professeurs de Coran, éventuellement âgés. On y rencontrait des frères de lait. On y rencontrait bien sûr les fameux eunuques, mais je les ai gardés pour la fin parce que on a tendance à systématiquement accoler la question de l'eunuque à celle des femmes, alors que elle peut être facilement découplée. Beaucoup d'eunuques étant en réalité des fonctionnaires du palais qui pouvaient très bien être aussi des chefs d'armée, des intendants, des gestionnaires de grandes villes, etc.
Et puis. La présence des femmes dans ces harems ou gynécées ou sérails n'était pas qu'une présence uniquement de relations sexuelles. On y trouve aussi des femmes qui sont des servantes, qui sont présentes des nourrices, qui sont présentes pour d'autres fonctions à l'intérieur de ce harem. Et c'est ce que vous montrez bien en diversifiant justement une image qui est trop unitaire de ce qu'étaient ces harems ou ces sérails.
C'est exactement ça. La population féminine de ces maisons, enfin la composante féminine de ces maisons n'était évidemment pas seulement ne rassemblait pas seulement des partenaires sexuels du maître de maison. Il y avait toute sa famille, ses parentes. Il y avait également des clientes, des protégées de la maison, des femmes offertes, mais offertes également pour le service. Il y avait aussi toute une série de clientes ou d'intermédiaires. Alors, dans l'Empire ottoman, on pense tout de suite aux fameuses Kira, qui étaient les intendantes ou les secrétaires juives des sultanes et des dames de la cour. Au Maroc, on rencontre plutôt des hommes, des juifs, dans le rôle d'intendant. Mais donc, il y a toute cette désexualisation à opérer sans trop tordre le bâton dans l'autre sens non plus.
Oui, c'est tout de même un espace aussi qui a été pensé comme un espace entièrement clos. Vous ouvrez votre premier tome sur une fuite d'un sultan qui ne fuit pas seul, il fuit avec son harem et sa cour d'une certaine manière. Et on le sait parce que une des femmes de ce harem perd la vie dans cette fuite en montagne au Maroc. Et donc, ça n'est pas simplement un espace clos, parce que c'est un espace que vous décrivez en tout cas comme un espace d'échange entre l'extérieur du palais et l'intérieur du palais, un échange de bons procédés, d'échanges de relations, de clientèle, pourrait-on dire, et que cet espace est un espace ouvert.
Tout à fait.
Ou entre-ouvert, je ne sais.
Alors, Il est ouvert en ce sens que la mobilité du pouvoir, des pouvoirs, était considérable dans ces périodes. Et donc, bien souvent, les sultans vivaient une partie de leur règne à cheval. Enfin, c'était même un idéal du sultan allant à la rencontre de ses sujets. Parfois, il était simplement contraint parce qu'il y avait telle région à mater ou à réintégrer dans le giron de l'État. Et donc, il emmenait à sa suite toute une série de femmes et il en recevait au cours de ses chevauchées. Donc, il fallait s'en occuper. Donc, il y avait toujours des femmes dans ses expéditions. Je montre aussi qu'on pouvait les rencontrer sur les champs de bataille, qu'elles pouvaient y participer d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça rompt complètement avec l'image du sultan, du harem, comme carcéralité, comme espace clos, renvoyant à une forme de prison féminine. Sur un second plan, même dans les situations de claustration féminine, claustration qui est la marque des dames d'honneur, enfin la marque des dames de haute condition, le retranchement social n'est pas synonyme d'abstention sociale ni de néant social. C'est-à-dire qu'au contraire, ce sont des femmes souvent très puissantes qui gèrent leurs affaires via des intermédiaires, qui gèrent leurs propriétés, mais qui s'enrichissent aussi parce que elles reçoivent des sollicitations pour pousser telle ou telle affaire. Et donc, il y a toute une économie de l'intercession qui peut être mise en évidence, que des hommes mettent en œuvre de la même façon. Mais il y a donc une forme de mobilité sociale à l'intérieur des palais.
Alors, vous faites beaucoup, d'ailleurs, le rapprochement avec des cours occidentales, d'Europe occidentale à la même période, en disant, faisons, et là c'est un travail d'anthropologue, faisons la comparaison d'une certaine manière. Est-ce que c'est si différent que des cours d'Espagne, des cours d'Italie, des cours de France ou des cours d'Angleterre, justement ce rapport entre des concubines ou des femmes légitimes et le souverain, mais aussi sur cette intercession que l'on peut connaître, je ne sais pas, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, dans les cours de France, à Versailles ou ailleurs.
Oui, j'ai été formée à l'anthropologie historique et j'ai eu la chance de faire ma carrière à l'École des hautes études en sciences sociales, où il y avait beaucoup de dialogues, entre spécialistes d'aires culturelles différentes, avec tout le problème justement de l'assignation à une aire culturelle. Mais donc, cette forme, je dirais pas d'agilité, mais cette envie d'aller y voir et de pousser un petit peu la comparaison, elle me vient assez facilement et j'aimerais que ce soit plus systématique, parce que justement, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de sortir d'une sorte de verticalité culturelle et de raisonner par des contemporanéités. Et donc, effectivement, quand on conduit des comparaisons à une même époque, on se rend compte que les lignes de continuité sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense, y compris sur des questions paradoxales comme la polygynie, comme le rapport à des enfants nés de lits différents, etc.
Et la descendance, puisque effectivement vous comparez par exemple les possibilités pour que des concubines puissent avoir une descendance légitime avec le souverain dans le Maroc que vous décrivez, tandis que dans d'autres cultures, que ce soit les cultures de l'Europe occidentale par exemple, eh bien ça n'est pas possible et c'est un long combat pour pouvoir faire reconnaître ce qui, aux yeux de la population, mais aussi de la cour, est un bâtard ou une bâtarde.
Voilà, il n'y a pas de bâtardise en ce sens dans ces sociétés. Quelle que soit leur mère, tous les fils sont en droit aptes à postuler au trône. Et donc, ça complexifie considérablement le jeu, mais ça réintroduit du jeu, justement. Et ça permet au sujet d'avoir des champions, de pousser tel ou tel champion. C'est-à-dire qu'en fait, de manière peut-être contre-intuitive, ça réintroduit une forme, je dirais, de sinon de démocratie, au moins de plasticité Ça permet de rebattre les cartes chaque fois qu'un monarque perd la vie, parfois de l'aider à perdre la vie aussi. Mais ça permet de... ça permet du jeu, pas de meilleure formule.
Mais avec une compétition tout de même qui peut entrer justement à l'intérieur de ce harem. Alors on a aussi souvent d'ailleurs... Beaucoup d'écrivains romantiques ont tenté de montrer justement ces lieux clos du harem tel qu'il est décrit au 19e siècle comme étant des lieux de combat, de compétition entre femmes, avec une cruauté particulière de ces femmes les unes envers les autres. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela et comment, quand on historicise tout cela, ça vous semble différent, Jocelyne de Clier?
Alors, rien n'est jamais tout à fait faux ni tout à fait vrai. Il y a cette image toute faite du harem comme lieu de déchaînement des passions, comme lieu de jalousie entre les femmes. Et ça, c'est une idée toute faite qui est liée à une forme d'arasement statutaire des femmes, l'idée qu'elles se valent toutes, finalement. C'est une façon de les dépolitiser. Elle ne pourrait réussir que par la séduction. Ça a été repris, y compris par des féministes, ces femmes réduites à la sexualité pour seule arme, finalement, et qui seraient substituables les unes aux autres, et qui donc seraient dans une sorte de guerre permanente les unes avec les autres. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passait, même s'il pouvait y avoir des jalousies féroces, peut-être plus entre les fils en compétition qu'entre leur mère. En réalité, il faut voir l'inscription sociale de ces femmes avec des statuts très inégaux, les plus puissantes d'entre elles étant a priori celles qui émanaient de grandes familles ou de tribus puissantes dont le sultan avait besoin et qui du coup devenaient à peu près intouchables.
Mais comment fait-on rentrer le social dans cette figure imposée qui est la figure du harem, justement, parce que c'est ce que vous faites dans votre travail, c'est-à-dire toujours de vouloir distinguer dans ce genre féminin, par exemple, dans le genre des femmes du harem, vouloir distinguer la place du social, c'est-à-dire toujours dire il ne faut pas prendre une femme du harem pour une autre femme du harem.
Absolument. C'est plutôt le harem qui nous a dépouillés du social et de l'histoire sociale, donc il faut la remettre à sa place, et il y a une tendance, y compris dans une démarche féministe, il y a une tendance à survaloriser les femmes puissantes, les grandes sultanes, en tant qu'héroïnes, ayant imposé leur volonté dans un monde d'hommes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi les femmes qui les entourent, et d'essayer de comprendre les rapports de pouvoir qu'elles entretiennent avec des clientes, mais aussi tout cet aréopage de servantes, de domestiques, d'esclaves qui les entourent et qui sont des femmes qui ont parfois beaucoup de pouvoir. Les intendantes, par exemple, ont un pouvoir considérable, parfois plus important que celui des compagnes du sultan.
C'est d'ailleurs une question fort intéressante. Voilà un espace, alors disons discret, sinon totalement invisible. Comment l'historienne que vous êtes, Jocelyne Daclia, a-t-elle trouvé les sources variées? Parce qu'il y a des récits, il y a des contes, il y a des livres d'éducation des princes. Il y a énormément de manières d'aborder cette question-là. Mais il faut brasser une documentation très variée, disons, hétérogène, pour pouvoir arriver à tirer les conclusions que vous toutes tirez dans ce grand ouvrage sur harem et sultan, sur les relations de pouvoir à l'intérieur de cette figure du harem.
Eh bien, pendant longtemps, les universités maghrébines ont été un peu réticentes à se mettre à l'histoire des femmes, puisqu'à l'époque, dans les années 1980-1990, on parlait surtout d'histoire des femmes, bien sûr, et avec l'idée qu'il manquait les sources, qu'on ne disposait pas des sources pour faire cette histoire. À ce genre d'objection que connaissent bien les historiens, les historiennes du genre, à ce genre d'objection, Afsaneh Najmabadi notamment a répondu mais les sources qui parlent des hommes parlent aussi des femmes. Et donc ça a été un petit peu mon principe, je dirais, de lecture ou de relecture, c'est-à-dire que j'ai fait feu de tout bois, j'ai essayé de brassée très large, en reprenant d'abord les sources les plus connues, en relisant les chroniques tout simplement, en les lisant, en les relisant, parce que je me suis rendu compte que les mentions des femmes étaient beaucoup plus nombreuses qu'on ne pouvait le penser a priori, quand on a en tête l'idée d'un tabou sur les femmes, l'idée que les femmes respectables, on n'en parlait pas, etc. Et donc, j'ai essayé d'avoir une lecture extensive, y compris, par exemple, en prenant en compte tous les corpus poétiques enchâssés dans les chroniques et qui souvent ont été expurgés en les réintégrant en tant que faisant partie d'un texte politique. À travers ce type de sources et la littérature sultanienne dont je suis familière, les mémoires de captifs, les mémoires de voyageurs, les mémoires de diplomates, les sources également de jurisconsultes, etc. J'ai essayé de regarder de manière transversale, en gros, où était la place des femmes, mais de ce fait même, où était aussi la place des hommes par rapport à elles, oui, en inversant la perspective.
Oui, parce que c'est effectivement la question du rapport entre ces hommes et ces femmes que vous travaillez très précisément. C'est le principe même du genre, de travailler sur ces rapports. Et ces rapports, donc, ne sont pas les mêmes selon le type de sultanat, selon le type de la période historique sur laquelle on travaille. Il y a effectivement, vous le citiez, la question du caractère aniconique de cet espace géographique qui est l'ouest du Maghreb par rapport à d'autres endroits. Et donc, vous insérez, c'est un très beau travail d'édition qui est fait, beaucoup de miniatures persanes, pour pouvoir vous aider d'une certaine manière à voir, sinon les représentations du harem à l'ouest de l'Afrique du Nord, parce qu'il n'y en a pas, pour les comparer avec d'autres représentations qui sont plus orientales, pourrait-on dire.
Oui, c'est un point important que celui de l'iconographie. D'abord, de manière un peu globale, parce que l'absence d'une iconographie figurée tend à disqualifier un petit peu cette région sur un plan culturel, sur le plan des hiérarchisations civilisationnelles, etc. C'est comme s'il y avait un accomplissement qui manquait, et c'est comme si ça ravalait le Maghreb à un rang un peu inférieur et subalterne. D'ailleurs, l'impérialité marocaine est rarement prise en compte dans l'historiographie au détriment de l'impérialité ottomane, séfévide ou moghole. Et donc, pour moi, c'était important de restituer des images pour redonner corps à ces acteurs et actrices, enfin, et aussi pour leur redonner une forme de dignité contre cet orientalisme qui est systématiquement mobilisé, que je ne renie pas en tant que tel, mais qu'il faut resituer dans son contexte, dans son époque, et dans un contexte géopolitique par surcroît. Et donc, ce que j'ai souhaité, c'est d'abord mobiliser toutes les images relatives au contexte marocain disponibles, donc faire une enquête spécifiquement sur le Maroc. Je pense que mon enquête a été relativement exhaustive. Et par ailleurs, mobiliser des images, non pas pour leur pouvoir d'illustration, mais pour un pouvoir d'évocation. C'est-à-dire, parfois en expliquant que ça pouvait être comme telle image renvoyant au monde séfévide ou moghol, et parfois pour mobiliser une différence, par exemple, pour dire, je prends un exemple, on ne sait pas s'il y avait des gardes féminines armées à la cour du Maroc, mais on sait qu'il y en a pour l'Empire moghol, et en voici une image. Et ça défait aussi un stéréotype du harem.
Et cela dit aussi quelque chose, et on sent chez vous une volonté de rendre justice à l'importance de ces sultanats occidentaux du Maghreb. Ça dit aussi chez vous cette volonté de dire, il y a là une culture enracinée, une culture particulière dans cet espace géographique du Maroc, qu'il faut relire, parce que quand vous parlez de l'impérialité justement de ces sultans du Maroc, ils sont parfois, pour certains d'entre eux, comparés aux grands souverains européens à l'époque. Ils font peur, ils donnent de la crainte aux souverains européens, mais aussi une certaine admiration. Et cela, on l'a un peu oublié dans l'historiographie contemporaine.
Oui, tout à fait. Alors, ma démarche n'est pas apologétique. Il ne s'agit pas de restaurer la grandeur, mais de restaurer effectivement quelque chose que nous avons perdu de vue actuellement, parce que quand nous pensons despotisme oriental, nous avons tout de suite en tête principalement l'Empire ottoman, dans une moindre mesure avec les lettres persanes, évidemment nous pensons à la Perse, mais nous avons oublié qu'il y a cette composante marocaine qui est une variante du despotisme oriental et qui était souvent comparée à l'Empire turc dans les ouvrages de philosophie politique européenne, c'est-à-dire qu'il y avait une déclinaison d'abord perçue comme, ordonnée, puissante, sous le règne des Saadiens, donc à la fin du XVIe siècle, avec principalement le règne d'Al-Mansour, conquérant du Soudan, qui a été sollicité pour des alliances avec des puissances européennes. Et peu à peu, on dérive vers une modalité, comment dire, plus tyrannique du despotisme. Et on en arrive à ce qui est resté, je pense, à l'heure actuelle, comme l'image des États voyous, rock states, l'idée de gouvernants fantasques, imprévisibles, sanguinaires, et de royaumes sans ordre, sans parfois, discipline.
Parfois sans État, d'ailleurs. On a voulu les voir.
Parfois sans État.
On a voulu les voir comme cela.
C'est ça, des États paradoxaux, prédateurs, prenant et ne distribuant pas. Alors que tout ce que j'essaye de montrer, c'est ce jeu de captation, redistribution, y compris captation et redistribution de femmes.
Oui.
Puisque beaucoup de femmes sortaient des grandes maisons, étaient données, mariées ou données comme esclaves, mais en tout cas, ne passaient pas toute leur vie dans l'enceinte du palais.
Oui, et puis il y a effectivement ce regard porté sur les États de barbaresques, d'une certaine manière. Ces États qui sont prédateurs en Méditerranée, mais en oubliant que de l'autre côté, il y a les corsaires et qu'il y a des prédations semblables d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Vous y insistez, vous avez travaillé dans un précédent ouvrage sur la lingua franca, sur cette langue des ports en Méditerranée, qui était partagée par tous les commerçants et tous les marins de cette mer Méditerranée. C'est bien cela aussi que vous vous attachez à montrer, c'est ce rapport permanent, y compris dans les moments les plus importants de tension entre les États européens de l'époque et l'Afrique du Nord, qui est toujours maintenu malgré tout cela.
Oui, il y a une interaction permanente, il y a une interconnaissance absolument permanente, des capillarités constantes, on pourrait même parler d'osmose, et sur cette base, sur cette trame, finalement, il se dessine malgré tout des grands schémas d'altérité culturelle et une forme de barbarisation, véritablement, de cet univers social et culturel par l'Europe.
Alors, il y a un point effectivement qui est important, c'est le point de l'esclavage, puisque c'est un point bascule, pourrait-on dire, à partir du moment où l'Europe commence à condamner, ou en tout cas certains penseurs européens commencent à condamner la question de l'esclavage telle qu'elle est pratiquée dans la traite atlantique, par exemple. Eh bien, on commence à regarder ces États qui continuent à pratiquer l'esclavage comme étant des États singuliers, voire barbares, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la question du harem s'inscrit dans cette relation de pouvoir entre le nord et le sud de la Méditerranée, dans cette vision, pourrait-on dire, de l'esclavage comme étant, disons, non seulement une régression, mais un reste des temps barbares?
Alors, l'esclavage ne dérangeait pas beaucoup l'Europe au début de l'époque moderne, par exemple, ni au Moyen-Âge.
C'est plus tard.
Je pense notamment à un texte magnifique de Bernardin de Saint-Pierre, un plaidoyer contre l'esclavage, Amsaël et Zoraïde, qu'il situe justement au Maroc.
Là, on est à une vingtaine ou une trentaine d'années de la Révolution française, au milieu du 18e.
Voilà. Mais ce plaidoyer pour l'esclavage est finalement resté assez marginal d'une certaine façon, parce que ce qui dérangeait l'Europe, c'était l'esclavagisation de ces hommes et de ces femmes. C'était la course barbaresque, c'était le fait qu'on prenne des captifs à rançon, même si on en prenait de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus vécu cette question sur un mode presque civilisationnel, c'est-à-dire comment ose-t-on s'en prendre à nous ? Je crois que l'esclavage des Noirs, à part Bernardin de Saint-Pierre, ne dérangeait pas grand monde dans cette période. Il apparaissait assez naturel. Et donc le trope de l'esclavage était là. Il a justifié plus d'une canonnade. Il a justifié beaucoup d'expéditions armées contre les barbaresques au début du 19e siècle.
Compris par des États-Unis qui viennent se rendre en Méditerranée, justement, pour combattre cette liberté du commerce et en même temps...
Oui, le chant des Marines garde une trace, donc, de cette expédition contre Tripoli. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement une politique pour délivrer les esclaves dans le nord de l'Afrique. Et d'ailleurs, les études sur l'esclavage en Algérie, en Tunisie, montrent que, y compris en tant que puissance coloniale, la France a été très tiède dans ce domaine. Mais ce qui m'intéresse aussi, pour revenir à la question spécifique du harem, c'est qu'il y a eu une très grande sollicitude donc pour les européennes captives des morts dans le cadre des harems. Donc elles ont été absolument vues comme des martyrs chrétiennes d'abord, puis ensuite comme des esclaves, enfin esclavagisées, réduites à la luxure, à la lubricité du mort, pardon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, des seules européennes esclaves des morts, on est passé à l'idée des femmes esclaves des hommes dans cette société où le despotisme devenait de plus en plus une question diffuse.
Vous avez beaucoup lu pour cet ouvrage considérable qui est donc Harem et Sultan, mais vous avez lu des visions variées, pourrait-on dire, de cela. Il y a des visions, effectivement, des historiens et des anthropologues occidentaux, et encore, il faut les distinguer les uns et les unes des autres, mais aussi d'une historiographie musulmane ou une historiographie arabe de ces espaces géographiques que vous avez parcourus pour cet ouvrage. Et on a vraiment l'impression d'une sorte d'explosion de références en vous lisant, qui montre aussi une multiplicité de lectures. Comment rendre cette multiplicité de lectures, c'est ce que vous faites dans un ouvrage aussi considérable que le vôtre, pour trouver votre propre chemin, pourrait-on dire, dans ces lectures-là. Vous avez évoqué la question du féminisme, vous pourrez évoquer aussi la question de lecture du féminisme musulman, qui est particulière et qui a été inspirée, entre autres, par Fatima Mernissi, et tout un tas d'autres lectures qui sont très différentes, plus culturalistes, plus essentialisantes, moins essentialisantes. Comment faire pour se pencher sur un sujet aussi complexe avec autant de lectures potentielles?
Alors, c'était complexe aussi parce qu'il y a plusieurs périodes et que donc il faut lire pour toutes les périodes et ça démultiplie bien évidemment le nombre de lectures à faire. Mais ce que je voudrais bien souligner, c'est qu'on est dans un moment de très grande richesse de la recherche. Oui. Et ça n'apparaît pas beaucoup dans le débat public, on ne s'en rend pas compte, mais il y a actuellement tout un renouveau des recherches sur les mondes islamiques, sur les sociétés islamiques, aussi bien dans le domaine de l'histoire que dans celui de la littérature, par exemple. En littérature arabe, persane, turque, etc., on redécouvre des choses extraordinaires et il y a toute une remise en question des vieilles lectures, des clichés sur les sociétés islamiques en tant que sociétés en déclin, ne faisant qu'annoncer, ne faisant que que rabâcher, enfin, sans innovation, etc. Tout ça, c'est fini. Donc, il y a une explosion de publications et c'est effectivement difficile de tout lire simplement. Alors, comment faire son chemin? Je ne sais pas si j'ai réussi à faire mon chemin, mais je pars du principe que d'abord, toutes ces historiographies sont à situer dans leur contexte, y compris Fatima Mernissi, par exemple. Les lectures que l'on faisait au lendemain des indépendances, pour le cas du Maghreb, obéissent à d'autres logiques que celles que nous pouvons faire aujourd'hui, ne sont pas informées par le même rapport à la question de l'islam. Et donc, à chaque fois, il faut remettre les choses en contexte. Mais je pars aussi du principe que toute approche historiographique met en lumière certaines réalités et nécessairement on laisse d'autres dans l'ombre, on nous les fait oublier. Et donc, comme l'a dit récemment Emmanuel Blanchard en présentant son dernier livre, qu'est-ce que je suis en train d'oublier par telle approche? Et voilà, c'est ce qui m'aide à mettre en ordre finalement mes lectures.
Et à vous singulariser aussi dans ce milieu qui peut-être est un milieu qui est orienté selon des lectures prédéfinies pour certaines d'entre elles. Alors effectivement, vous avez cité la question féministe qui peut-être une façon de voir de façon un peu, disons, catégorielle, la figure de Harem, mais il y a la vision musulmane, purement musulmane, c'est-à-dire très, très marquée par une histoire du prophète et de sa descendance, par exemple. Il y a une version très occidentalisante, etc. Comment faire, justement, pour manier ces références qui sont parfois contradictoires et voire opposées?
Oui. J'essaie d'avoir une lecture toujours nuancée. C'est de toute façon mon tempérament. Et donc, je prendrai un exemple. Sur la question des féminismes plutôt que du féminisme, la notion de patriarcat est une notion centrale à laquelle j'adhère sur un plan militant. C'est un concept commun. Et donc, on a besoin de brandir un tel concept. Mais si sa valeur politique et militante est certaine, sa valeur descriptive, en tant qu'historienne, elle m'apparaît moins évidente. On est face à des sociétés où souvent le patriarcat, ça ne veut pas dire grand-chose, étant donné l'espérance de vie, étant donné la dureté des temps, le fait que souvent les familles sont effilochées, il y a beaucoup de femmes seules, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup de familles sans patriarche, tout simplement. Donc il faut introduire de la nuance, du doute, reconsidérer les choses. Voilà, on peut se mettre un petit peu en porte-à-faux, mais en expliquant que c'est une question d'efficace des concepts qu'il faut discuter. De même, il y a toute un ensemble d'ouvrages. Je pense à tous les livres sur la question des épouses du prophète en tant que modèle et en tant que modèle féministe. Il y a tout un courant, effectivement, à l'intérieur de l'islam, qu'on dit fondationaliste, c'est-à-dire qui met en exergue une sorte d'amélioration générale de la condition féminine avec l'apparition de l'islam, et une dégradation de cette condition au fil des interprétations misogynes de certains grands lettrés musulmans. Et donc, il faudrait revenir à une sorte d'essence du message religieux. Bon, j'essaye de voir quelles références concrètes dans les textes historiques, dans les sources, on a de ces figures des épouses ou des compagnes féminines du prophète.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, c'est-à-dire dans ces temps où on parle beaucoup de domination, d'estomper par le travail que vous menez, cette question de la domination à l'intérieur de cette figure du harem, puisque vous montrez bien effectivement la capacité d'agir de certaines de ces femmes, pas toutes, mais certaines d'entre elles, la porosité des murs du harem par rapport à la ville, etc. etc. Est-ce qu'au bout du compte, on pourrait, en vous lisant, se dire tout qu'on fait, c'est une condition, disons, presque non pas normale, mais où la domination n'est pas si importante que cela. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de relativiser justement cette question de la domination du pouvoir des hommes sur ces femmes? Vous parliez du patriarcat à l'instant même.
Oui, la hiérarchie de genre, elle est claire. Elle est claire. Après, la violence, elle est partout aussi. On parle des sociétés inscrites dans l'histoire, qui sont des sociétés violentes. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Le rapport au viol, par exemple, n'est pas du tout le rapport que nous avons aujourd'hui, où il y a une sorte de droit à l'intégrité corporelle qui ne faisait pas beaucoup de sens, ou pas de la même façon, dans les périodes passées. Donc je n'oublie jamais cette violence. Après, quand on parle de domination, il y a aussi une domination de femmes puissantes sur d'autres femmes. Mmh. Il y a aussi un pouvoir sultanien éventuellement oppressif qui peut être défendu et exercé par des femmes. Donc il y a cette diffraction qu'il faut avoir à l'esprit, et la violence, je ne mets pas la focale uniquement sur les femmes. C'est tout un système qu'il m'intéresse d'étudier dans toutes ces dimensions d'oppression, mais aussi d'actorialité possible.
Actorialité, donc il faut expliquer, c'est donc la capacité, ce qu'on appelle l'agency en...
Pas exactement, je ferai une nuance, parce que...
L'agency, c'est donc la capacité d'agir, dit-on, voilà. Sous la domination, de gens qui sont sous la domination.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà quand même une question de stratégie. On essaye aujourd'hui de sortir tout de même des catégorie un peu schématique de dominant, dominé, de la résistance. C'est-à-dire que toute actorialité féminine n'était pas une forme de résistance au joug masculin. Et ce qu'il m'intéresse de montrer notamment, c'est que certains rôles remplis par des femmes ou dévolus à des femmes étaient des rôles, au fond, à genre. Le fait d'être femme... c'était pas des rôles spécifiquement réservés à des femmes. Par exemple, ces formes d'intercession pour des audiences sultaniennes, cette intervention dans des tractations politiques ou commerciales, maritimes, etc. Il y avait aussi cet usage de donner des femmes, ou des garçons d'ailleurs, ou des hommes, pour le service des puissants, pas seulement des sultans, de manière à avoir quelqu'un dans la place. Mais quelqu'un dans la place, homme ou femme, l'essentiel, c'était d'avoir quelqu'un. Et donc, il y a cette dimension épicène aussi qu'il faut faire ressortir. Le fait que être femme pouvait éventuellement être une question secondaire.
Et vous montrez bien aussi qu'il n'y a pas que ces harems de très grands puissants, mais qu'il y a cette descente dans la société, justement, de cette figure du gynécée, du sérail ou du harem, pour irriguer, pourrait-on dire, la société marocaine et de ce Maghreb occidental. C'est-à-dire qu'on s'est trop attaché, selon vous, à cette idée que ça n'était qu'une figure. On prend souvent l'exemple de Topkapı, par exemple, pour la Turquie, donc une figure de celui qui est le plus puissant de son empire. Mais, vous dites, c'est une figure qui se multiplie d'une certaine manière.
Le plus puissant est le plus apte à nourrir beaucoup de bouches ou à attirer à lui ou à acheter beaucoup d'hommes et de femmes. Et donc, effectivement, les plus grands sérails ou gynécées se retrouvent chez les monarques les plus puissants. Tous les sultans, d'ailleurs, n'ont pas spécialement cherché à capitaliser des femmes.
Parfois, vous l'expliquez, ça, oui.
Voilà, parfois, c'était un petit peu une contrainte, ou dans une période difficile, beaucoup de bouches à nourrir, à recueillir. Et donc, il est naturel que l'attention se soit portée sur ces sultans, avec, je le souligne au passage, parfois une diffraction du pouvoir. Il pouvait y avoir plusieurs sultans à la fois. Mmh. Pas seulement un monarque unique, mais une démultiplication de ces grandes maisons. Et puis, alors, comment l'expliquer ? Au XVIIe siècle, de manière plus générale, l'Europe développe un regard plus ethnographique sur le monde et aussi sur ses sociétés. Est-ce pour ça qu'on se met à s'intéresser davantage à décrire des intérieurs domestiques comme éventuellement polygynes
avec plusieurs femmes, donc,
avec plusieurs femmes, ou bien avec des compagnes qui pouvaient être des servantes qui donnaient des enfants à leur maître. Mais il y a un tournant plus politique, je pense, au moment où on se met à parler de harem, c'est-à-dire dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et surtout au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est cette idée que le pouvoir est oppressif, mais que ce pouvoir, il est masculin et qu'il est semblable à toutes les oppressions masculines sur les femmes. Mmh. Mais on décrit de la même façon, d'ailleurs, une oppression sur les juifs. C'est un moment où il se dessine une sorte de dénonciation systématique de l'homme arabe mort, selon le terme qu'on lui réserve, comme tyrannique en toute direction, finalement.
Et d'ailleurs, une période où c'est le début véritablement de la colonisation par les Européens de ces espaces géographiques, c'est-à-dire c'est l'expédition d'Égypte.
L'expédition d'Égypte est pour moi un tournant.
Ouais.
Et pour moi un tournant, alors que la question coloniale est une question qui remonte au moins à 1415 et à la prise de Ceuta, et que toute cette histoire est scandée par des luttes pour des territoires, prendre, reprendre telle place forte. Atlantique ou méditerranéenne, l'expédition d'Égypte marque un tournant civilisationnel, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle ampleur en termes de civilisation et de supériorité civilisationnelle dans ces affrontements.
Qu'est-ce qui, selon vous, et c'est ce que vous racontez dans votre troisième tome, celui justement du temps des harems, qu'est-ce qui, selon vous, cristallise le regard occidental qui est encore le nôtre d'une certaine manière pas après la lecture de votre ouvrage, mais auparavant, sur ce harem, lieu de désir, lieu de fantasme, lieu d'échange de femmes, effectivement, pour les Occidentaux. Qu'est-ce qui se passe là, à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ce début de 19e siècle ?
Alors, dans la période précédente, que l'on pense à Soliman le Magnifique et à Roxane, par exemple, il y a une figure de la sultane puissante, voire de la sultane maléfique. Mais l'Europe de ce temps savait qu'il fallait courtiser les femmes du sérail, justement pour obtenir certains privilèges ou pour acheter certains privilèges. Mais donc, il y avait des figures de femmes fortes. Et puis, à mesure que l'on décrédibilise le pouvoir sultanien lui-même, l'image des femmes se dépolitise a fortiori. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de notion de femmes impliquées dans l'espace public, impliquées dans
la gestion politique.
Voilà. Alors, ça coïncide aussi avec un tournant politique des sociétés elles-mêmes. C'est-à-dire que, on le voit bien en Égypte, notamment avec les réformes de Mohamed Ali. Mais il y a une évolution vers une professionnalisation du politique et vers une masculinisation du politique. Et donc, les femmes n'ont plus la même place dès lors qu'on crée des écoles militaires, par exemple, pour moderniser la formation des cadres ou des cadres militaires et administratifs, dès lors qu'on envoie des jeunes hommes se former en Europe, en Angleterre, par exemple, ou que sais-je, en France, les femmes se retrouvent exclues de ces nouveaux critères de compétences, finalement. Et c'est peut-être pour cela, affirment certaines historiennes, notamment, qu'elles ont eu envie de sortir du harem, puisqu'il n'y avait plus de profit, finalement. Elles n'avaient plus la moindre implication dans le politique.
Y compris pour les questions dont vous parliez auparavant dans notre entretien, de descendance, de capacité justement à établir une descendance au sultan, ou est-ce que c'était encore le cas?
Ah si, c'était encore le cas, et elles n'ont pas perdu leur capacité à gérer des biens immobiliers, etc., ni leur capacité
civile.
Oui, voilà, mécénat, religieux et autres. Mais il se joue quelque chose dans la définition même du politique qui devient, qui se masculinise.
Et donc,
elles sont rabattues, au moins en apparence, sur des enjeux de reproduction et de sexualité.
Merci beaucoup à vous, Jocelyne Daclia. Votre Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc vient tout juste de paraître aux éditions Anacarsis en 3 tomes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.